initiative de faire ce cours. J'espère que cela apportera une vision sereine et équilibrée de ce que nous vivons dans notre vie, dans le judaïsme d'une manière générale. Alors, il faut savoir que tout le système du judaïsme par rapport au créateur de ce monde est un système qui vient du haut vers le bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, c'est toujours l'infini qui vient vers le fini et non pas l'inverse. Vous avez sûrement l'habitude d'entendre des expressions comme « nous montons vers Dieu », « nous nous rapprochons de Dieu ». Tout ceci est en réalité de la Avoda Zara pure et simple. On ne peut pas monter vers Dieu, car monter vers Dieu, cela sous-entend que vous allez l'imiter. Or, nous avons face ici au Créateur qui est l'infini béni soit-il. Donc il n'y a pas où aller. Aller quelque part, c'est déjà l'imiter. L'imiter, c'est déjà de la Avoda Zara. Je ne peux pas servir un Dieu qui est limité, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni à ma petite compréhension. Les choses doivent être claires. Le sens du judaïsme, d'une manière générale, est donc toujours du haut vers le bas. C'est lui, l'infini béni soit-il, qui a créé ce monde, et c'est lui, l'infini béni soit-il, qui descend, entre guillemets, qui se dévoile, entre guillemets, dans ce monde. Toujours dans ce sens-là et non pas l'inverse. Il est dit « Zeh hashar l'Hashem, sadikim yavou bo ». Voici le portail pour Akadosh Baruch Hu, pas vers Akadosh Baruch Hu. « Zeh hashar l'Hashem », c'est pour lui. Sadikim yavou bo, même les tzadikim doivent emprunter cette porte, ce portail, dans le même sens que lui, béni soit-il, c'est-à-dire du haut vers le bas, du monde du Créateur vers le monde de la création. Toute compréhension inverse nous plonge immédiatement dans un service étranger, chas v'chalila, car nous limitons Akadosh Baruch Hu à notre cerveau, à notre petit système de réflexion, à notre système rationnel, et on n'a pas le droit de faire cela. Alors comment est-ce que le Créateur, en fait, descend et se révèle dans notre monde? Pour cela, il faut comprendre d'abord la création du monde. La création du monde vient par une contraction. Qu'est-ce que cela veut dire, une contraction? Eh bien, comme vous l'entendez, une contre-action, une action qui est contre. Contre quoi? Eh bien, contre la nature. Par exemple, une femme qui va accoucher, elle a des contractions. Pourquoi elle a des contractions? Parce qu'en réalité, il y a une volonté de la maman de garder le bébé dans son ventre. Et la contre-action, c'est de pousser le bébé vers l'extérieur pour lui donner vie. Cette contraction va sortir le fœtus qui va devenir un bébé, qui va naître, qui va sortir et qu'on va découper de la maman. La création du monde, c'est exactement le même phénomène d'une manière cosmique. L'infini, béni soit-il, précède le tout. Il n'y a pas d'autre degré que lui. Il n'y a pas d'autre notion que lui. Avant la création du monde, il y a l'infini, béni soit-il, une existence qui nous dépasse complètement, dont on ne peut pas parler et dont on ne parle pas. Ce qui nous intéresse, c'est la création du monde. La création du monde, c'est tout simplement l'un des métiers de Dieu, l'une des possibilités de Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini, béni soit-il. Mais l'une de ses possibilités, c'est de devenir un créateur. Et donc, lorsque vous faites référence au créateur, vous faites référence en réalité à une seule possibilité, alors qu'il y en a des milliards, une infinité. Et donc, on va, nous, se mettre face à Kadosh Baruch Hu comme le créateur de ce monde. Donc, lui est créateur et nous sommes les créatures. Maintenant, cette création du monde, en hébreu, se dit bara, beria. Bara, en hébreu, ce sont trois lettres, bet, resh, aleph. Bara. Le bara en question introduit une notion de mise dehors. Bar veut dire en hébreu à l'extérieur. A. Bar, A, bara. A, c'est le aleph. Avec des lettres, ça veut dire que c'est une sortie du aleph. Bar, aleph. En dehors du aleph, voici la création. Donc la création du monde, c'est l'infini béni soit-il à qui nous donnons en réalité une des lettres de l'alphabet qui est muette, qui ne se dit pas, tellement elle est profonde, le aleph. Alors là, je suis en train de vous le dire, le aleph, mais en réalité, le aleph ne se prononce pas. Vous voyez cette lettre, vous ouvrez la bouche, sans rien dire, vous avez déjà le aleph. On ne l'entend pas, cette lettre. Ce n'est pas comme bet. La lettre bet, c'est l'antithèse. Vous voyez qu'il y a ici un combat entre les deux lèvres, b, pour sortir un son. Alors que le aleph, je n'ai qu'à ouvrir la bouche et le aleph est déjà là. Quand j'entends par exemple bereshit, vous n'entendez pas le aleph, alors que dans le mot bereshit se cache une lettre aleph. Mais la lettre bête et les autres lettres s'entendent. Est-ce que les choses sont claires? Une fois que nous sortons du aleph, donc la création du monde, c'est bar aleph, bara, cela veut dire que le créateur sort de son unité, de son unicité, représentée par la lettre aleph, donc, muette, et va vers le monde du pluriel, qui est le monde de la création. Le minimum du pluriel, c'est le 2, donc la lettre bet. Donc le aleph est devenu en quelque sorte un bet. J'espère que je suis clair. La création du monde, c'est la sortie du aleph, de l'unité, de l'unicité, pour aller vers un monde de multiplicité. Donc on sort du aleph et on devient bet. Ce qui nous donne les deux lettres, aleph, bet, qui veut dire en hébreu papa, av. Donc le père, aleph, va donner naissance et va devenir un papa. Donc aleph devient bet. Bien entendu, le aleph reste toujours aleph, mais il a accepté le monde de la création, c'est-à-dire la sortie vers les détails de ce monde, vers la création de la matière, vers la création des hommes, vers la création du minéral, du végétal, des animaux et des hommes. Tout ceci donc avec des lettres. Le aleph devient bet. Nous sommes dans un monde de bet. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est lié à la lettre bet, qui est donc en valeur numérique 2. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous sommes liés à tout ce qui est 2. Premier exemple, le temps. Le temps, c'est quoi? Bien, c'est la distance entre deux points. S'il n'y avait pas deux points, il n'y aurait pas de temps. Donc le temps est lié toujours au chiffre 2. Ce n'est pas par hasard que la plus petite mesure du temps, comment est-ce que vous l'appelez? la seconde, c'est-à-dire la deuxième. Il y a toujours deux. En hébreu, shnia, de la racine shnaim. La même chose au niveau de l'espace. Qu'est-ce que c'est que l'espace? Eh bien, c'est la distance entre deux points. Il y a un point A, il y a un point B, et donc il y a distance. Donc, pour qu'il y ait existence de cette notion d'espace, il faut là aussi deux points. Donc, vous voyez que nous sommes dans l'espace-temps, et l'espace-temps exige deux points au minimum. Alors que chez l'infini béni soit-il, si je reviens à la lettre Aleph, tout est en une seule et même graine. La lettre Aleph est unitaire, elle est sans espace, sans temps, sans aucune notion compréhensible à l'homme. Donc l'homme ne peut pas concevoir le Aleph divin, et donc Akadosh Baruch Hu l'a placé dans le Bet humain. Donc nous sommes ici, il y a deux niveaux. Il y a l'infini béni soit-il qui est dans le Aleph, et nous, les créations, les créatures, nous sommes dans la lettre Bet. Donc tout ce qui est lié à ce monde est dans le détail. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand je prononce la lettre Bet, j'ai les deux lèvres qui doivent se toucher. Là aussi, encore une fois, une dualité ou une pluralité pour être dans le monde du 2. Lui est dans le monde du 1, moi, je suis dans le monde du 2. Tout ce que je viens de vous dire, David HaMelech le dit en une seule phrase dans le Tehilim, dans ses psaumes 61. Achat diber Elohim, Dieu parle dans un langage achat, de un, et moi, shtaim zu shamati, moi j'ai besoin de deux pour entendre. Donc lui parle dans un langage unitaire que je ne comprends pas, que je n'entends pas, et pour entendre quoi que ce soit de lui, j'ai besoin d'être dans un monde de deux. Et c'est pourquoi tout ce qui a été créé dans ce monde est double, vient par couple. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Voici le premier couple. Yom ve-laila, le jour et la nuit, encore un couple. L'homme et la femme, encore un couple. L'hiver et l'été, encore un couple. Tout ce qui est dans ce monde vient par deux. Quand je dis deux, je veux dire trois, quatre, cinq, six, peu importe, c'est le monde des détails qui commence par le premier du pluriel, qui est le chiffre deux. Je répète donc, David HaMelech, Achat Diber Elohim, l'infini béni soit-il, parle dans un langage un, et moi, je ne peux pas entendre, donc il me faut deux. Un exemple, Dieu donne une Torah, et dès qu'elle traverse l'atmosphère, ça devient deux tables. Vous voyez qu'il y a ici une impossibilité de recevoir le 1. Tout ce qui descend 1 depuis Akadosh Baruch Hu devient 2 dans notre monde. Et voici donc le rapport que nous avons vis-à-vis de l'infini, qui est l'unité parfaite. Pour comprendre cette unité, on est obligé, nous, de rester dans le 2, parce qu'on ne peut pas quitter le 2. Quitter le 2, c'est mourir. Donc nous sommes dans un monde de pluralité, nous sommes dans un monde de détails, nous sommes dans un monde de bêtes, et à partir du bête, nous devons rechercher le Aleph. Donc, si la lettre Bet va vers la lettre Aleph, je viens d'écrire un mot, Bet Aleph, en hébreu, Ba. C'est ce qu'on appelle le Olam Ha-Ba. Qu'est-ce que c'est que le Olam Ha-Ba? Eh bien, c'est à partir du monde dans lequel je suis, qui est le Bet, je trouve j'entends, j'entrevois quelque chose de l'ordre du Aleph. Et donc j'ai une part dans ce monde qui est le Aleph tout en restant dans le Bet. Par exemple, celui qui marche quatre coudées en terre d'Israël, Kol ha'olech arba amot be'eretz Israël, yesh lo chelek la'olam ha'ba. Il a la capacité, même s'il est dans l'espace du 2, même s'il est dans le temps du 2, de rejoindre le A, le Aleph. Donc il a une part dans le monde du Aleph. Ces choses sont très, très profondes, mais en même temps, j'essaye de vous les simplifier, de vous les rendre claires, parce que si on ne comprend pas cela, eh bien, on ne peut pas comprendre toute la notion de la Teshuvah, toute la notion de la création du monde, et bien entendu, Rosh Hashanah va devenir, en fait, la nouvelle année, sans rien comprendre, sans rien entendre, et sans rien savoir quant à nos actions dans cette journée première de l'année. Alors je reviens à cette notion que l'infini béni soit-il a accouché de ce monde. C'est comme si le Aleph était tombé enceinte et a accouché le monde dans lequel nous sommes, qui est le monde Bet. Et ce n'est pas par hasard que la Torah commence par la lettre Bet. Pourquoi elle ne commence pas par Aleph? Parce que le Aleph, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le comprendre. Donc on est dans un monde qui est le Bet. Une fois qu'on s'habitue à vivre dans ce monde, eh bien Akadosh Baruch Hu va révéler à cette lettre Bet dans laquelle nous sommes, la lettre Aleph et les notions qui viennent de cette lettre Aleph. Par exemple, dans le don de la Torah. Quelle est la première lettre du don de la Torah? Dans la paracha de Yitro, lorsqu'il y a au mont Sinaï, Dieu qui, entre guillemets, descend dans ce monde et va nous donner sa Torah, eh bien, la première version, c'est Anochi, qui commence par la lettre Aleph. Donc, vous voyez, nous sommes déjà dans un monde qui est le Bet, et le Aleph du Créateur vient nous rejoindre, comme j'ai dit au début du cours, du haut vers le bas, de lui l'infini vers le monde de la création. La création du monde, donc, est une naissance, est un accouchement. D'ailleurs, en hébreu, Rabbi Avraham Ibn Ezra, Alav HaShalom, nous dit que l'ivrot veut dire l'ichrot. Donc, créer, c'est découper. Découper de quoi? Mais découper de la matrice qui nous a fait naître. À quoi cela ressemble? À un bébé qui vient de naître, lui aussi, il est découpé de sa maman, découpé du ventre de sa maman. Lorsqu'il était à l'état de fœtus, il était dans le ventre de maman, nourri par maman, par un cordon ombilical, par lequel passaient toutes les énergies nécessaires au développement de ce fœtus. Au moment de la naissance, il y a découpage. Comment on dit découper en hébreu? Nituk. Ce sont les mêmes lettres que tinok, un bébé. Ça veut dire que le bébé, c'est un découpage de ce bébé par rapport au ventre de la maman. Donc, le bébé qui va naître va sortir du ventre de maman et va être immédiatement dans un état de danger de mort. Pourquoi il est en danger? Ben, tout simplement parce qu'il a été découpé et il n'a plus de quoi se nourrir. Il n'a plus de quoi vivre tout seul. Tant qu'il était dans le ventre de maman, tout était bien, car il était en elle et elle le nourrissait naturellement. Dès qu'il a été découpé de maman, il est dehors et maintenant il est en danger. Que fait la maman par sa bonté, par son amour? Elle revient vers son propre bébé. Regardez bien le sens. C'est toujours la maman qui vient vers le bébé. Comme dans notre exemple, c'est Dieu qui nous a mis au monde et étant donné que nous sommes en danger, comme ce fameux bébé, eh bien Dieu, comme une bonne maman, va revenir vers sa création pour la faire vivre. Et si Dieu ne revient pas vers son propre bébé, c'est nous, c'est le monde dans lequel nous sommes le bébé, nous avons été découpés, entre guillemets, de lui. S'il ne revient pas vers nous pour nous nourrir, pour nous donner vie, eh bien, on ne peut pas vivre ne serait-ce qu'un seul instant. Moralité, tout ce que je viens de vous dire, c'est que la création du monde, c'est d'Akadosh Baruch Hu qui donne vie au monde. Et deuxièmement, une fois qu'il a donné vie au monde, eh bien, il revient vers le monde auquel il a donné vie. Ceci est un principe premier, très important, qu'il ne faut pas oublier. Si vous ne comprenez pas ce premier degré, eh bien, on ne peut pas développer quoi que ce soit dans notre vie juive. Quand le degré supérieur, alors ou la maman, ou bien Akadosh Baruch Hu dans notre exemple, revient vers son propre bébé, vers sa propre création, il y a donc descente des valeurs de l'infini dans notre monde. Ce retour, écoutez bien maintenant cette notion, ce retour, ce premier retour de quelqu'un vers quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui le fait. Donc la première teshuvah qui existe dans le monde, c'est la teshuvah de Dieu vers sa propre création. Donc qui, dans l'histoire, a fait teshuvah en premier? Akadosh Baruch Hu lui-même. Tout simplement lorsqu'il revient vers son propre monde qu'il vient de créer, comme une maman qui fait teshuvah, teshuvah ici, retour, vers le bébé qu'elle vient d'accoucher pour le nourrir, pour lui donner vie et continuer par lui la notion de vie. Sans ce retour de la maman vers son bébé, sans ce retour d'Akadosh Baruch Hu créateur vers sa propre création, il n'y a pas de vie. Voici la première traduction du mot Teshuvah. Teshuvah égale donc retour. Retour de qui ? De Dieu vers sa création. Alors, où s'inscrit ma propre teshuvah? On vous demande tous de faire teshuvah sans arrêt. Qu'est-ce que cela veut dire donc faire teshuvah? Apparemment, c'est que l'homme revienne vers Dieu. Or, on a dit au début que ça n'existait pas. Revenir vers Dieu, c'est comme si le bébé rentrait dans le ventre de sa mère. Ça n'existe pas. Alors, quel est le sens de la teshuvah? Et je vais vous le dire maintenant, c'est très clair et très simple. C'est comme je vous l'ai dit dans le verset, Sadikim Yavou Bo. Qu'est-ce que c'est que la véritable Teshuvah? Eh bien, c'est comme le Tzadik qui va emprunter le même chemin que Dieu lui-même pour revenir dans sa propre création. Donc, que fait le Tzadik? Le Tzadik ne va pas vers Dieu. Il permet à Dieu de circuler et de descendre dans notre monde. Ces notions sont primordiales. Le tzaddik travaille, œuvre dans la même direction qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc le tzaddik, sa fonction, c'est de faire venir le plus en plus de divins dans notre monde. Voici la fonction d'un véritable tzaddik. Il va diffuser la lumière de Dieu dans la création. Toujours donc dans le même sens du Aleph vers le Bet, de la maman vers son bébé, du créateur vers sa création. Voici le mouvement de la Teshuvah. Si je vous pose maintenant la question, si vous deviez donner un sens, une flèche, est-ce que la Teshuvah serait pour vous du bas vers le haut, de nous vers Dieu, ou bien du haut vers le bas, de Dieu vers nous. Vous comprenez maintenant, après mon explication, que toute forme de teshuva, c'est toujours, sans aucune exception, de Dieu vers sa propre création. C'est toujours du haut vers le bas, de la racine vers les résultats. On n'a jamais vu un résultat qui repart à sa racine. Ce qu'on veut, c'est que le résultat vive d'une manière fidèle à ce qu'il y avait dans la racine première. Ça, oui. Mais rien d'autre. Donc, la teshuva, c'est de rester ici. Nous sommes en bas, nous sommes dans la lettre bête, nous sommes dans le monde des détails, nous sommes dans le monde de la pluralité, nous sommes dans le monde de la dualité, nous sommes dans le monde de deux, nous sommes dans le monde du contre. Et dans ce monde-là, nous devons réaliser, retrouver l'unité divine. Et plus on déversera de ce Aleph divin dans notre bête humain, plus nous aurons de divin sur terre, ce qui équivaut à plus de santé, plus de vie, plus de joie, plus de bonheur, plus d'abondance, plus de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais quand j'entends les gens qui disent « je repars vers Dieu, je fais teshuva, je monte vers l'éternel », c'est un petit peu de l'orgueil, car si tu montes vers l'éternel, c'est que tu sous-entends que tu sais dans quelle direction monter, donc tu as limité l'éternel à ta petite pensée. Ça n'existe donc pas du tout. C'est juste dans ta tête, tu es en train de tomber malade. La véritable teshuva, c'est de rester dans le monde dans lequel nous sommes et de faire en sorte que les valeurs de l'infini nous arrivent de plus en plus, mais toujours du haut vers le bas. Tout ceci était pour vous expliquer en fait la notion de teshuva, qui avant tout, c'est le retour du Créateur vers sa propre création. S'il n'y avait pas ce retour, eh bien le monde serait mort, comme le bébé qui serait resté seul sans que la maman revienne pour nourrir et pour faire vivre ce bébé. La deuxième traduction de teshuva, en hébreu, c'est la réponse. Or, c'est exactement la même chose. La réponse, c'est quoi? C'est que cette réponse, elle est au singulier. Alors, si je vous demandais maintenant de placer cette réponse, elle serait où? Dans le Aleph ou dans le Bet? Où est-ce que vous placez la réponse? Dans le Aleph ou dans le Bet? Même si je ne vous entends pas, je vous vois. Donc, avec la bouche, je peux voir les gestes que vous faites. En haut, la teshuva est dans le Aleph. Elle n'est pas dans le Bet. Et c'est pour ça que les Chachamim, dans l'Agmara, dans le traité de Psachim, à la page 54, nous disent quelque chose d'inouï. Teshuva kadma la olam. La teshuva a précédé le monde. Comment est-ce que la teshuva a précédé le monde? Pour vous, la teshuva, ça vient toujours après une faute. J'ai fauté, je fais teshuva. Et là, les sages viennent nous dire exactement le contraire. Tu n'existais même pas, le monde n'existait même pas, que la teshuva existait déjà. Donc, qui est la teshuva? Qui est la réponse à toutes les questions? Encore une fois, lui, béni soit-il. Donc, faire teshuva, c'est quoi en fait? C'est faire en sorte que Hachem arrive dans notre monde et nous donne la réponse, la seule réponse à toutes nos questions. Encore une fois, nous sommes dans la pluralité. Nous sommes dans le monde du pluriel, nous sommes dans le monde des détails. Et je viens de traduire teshuva par réponse. Donc la réponse a créé la question. Vous entendez ce que je suis en train de dire? La réponse a créé la question. Puisque s'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait jamais eu de question. Tout à l'envers de tout ce qu'on pense. Nous, on a l'impression que si je pose une question, alors la réponse maintenant va exister, on va la chercher. C'est faux. La réponse existe bien avant ta question. Et toi, ta question, ta bonne question, ta véritable question est censée révéler la réponse qui existe déjà. Mais s'il n'y avait pas de réponse déjà, tu n'aurais même pas eu de question. Donc la réponse existe avant la question. Le judaïsme est toujours à l'envers de tout ce qu'on peut imaginer. C'est incroyable. Donc si la réponse existe avant le monde s'appelle la question. Donc tout le monde dans lequel nous sommes est une grande question. She'ela. She'ela, racine, she'ol. She'ol veut dire un grand trou. Les abîmes, le Sheol. Donc, quand je pose une question, je crée un Sheol. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je fais un grand trou, je fais un vide, et ce vide appelle, invite la réponse qui existe déjà. Donc, la She'ela crée un vide, et je deviens avide de la réponse. Et si je pose une bonne question, eh bien, j'ai la réponse, la vraie. Donc, on peut juger l'intelligence d'un élève par rapport à l'intelligence de sa question. Parce que s'il pose la véritable question, il aura la bonne réponse. Mais si sa question est dans un petit coin, n'est pas le sujet principal, il n'a pas compris le sens profond et entier du sujet, eh bien, il posera une petite question marginale qui n'a aucun rapport avec le sens véritable du cours. Et donc, on verra que cet élève n'a pas véritablement une intelligence pour savoir poser la question. Or, l'homme s'appelle Adam. Adam, c'est un homme ou une femme? C'est l'homme et la femme. C'est écrit dans Bereshit. Adam, Zachar, ou Nekeva, bara otam, mâle et femelle, il les a créés, vaikra, shemam, Adam, et il les a appelés Adam. Donc à chaque fois que vous dites Adam, ce n'est pas un homme. C'est un homme et une femme. C'est une entité. Or, quelle est la valeur numérique? Vous savez que chaque lettre en hébreu a un poids. Comment est-ce que je peux mesurer le poids d'une lettre? Eh bien, le Aleph égale 1, le Bet égale 2, et ainsi de suite. Si je prends Adam, trois lettres, Aleph, Dalet, Mem, eh bien, j'obtiens Aleph 1, Dalet 4, et Mem 40. Donc, nous avons ici 45. Alors, écrivez 45 avec deux lettres différentes. C'est un mem et un he. Donc, Adam égale ma. Et ma égale question. Quoi? Donc, veha Adam ma. L'homme est une question. Attention, je n'ai pas dit un poseur de questions. J'ai dit qu'il était lui-même une question. Devenir un poseur de questions, c'est déjà s'éloigner de sa propre source. Avant de poser des questions, je suis moi-même une question. Pourquoi je suis une question? Parce que la réponse a précédé la question. Or, moi, je suis dans le monde des questions et la réponse à toutes les questions existait déjà. C'est le Créateur. Le Créateur, c'est la Teshuvah et nous sommes les She'elot. Nous sommes toutes les questions de ce monde. Nous sommes le grand Ma. Et Akadosh Baruch Hu vient remplir ce Sheol par sa grande réponse. Et plus ma question est grande, plus je suis grand, plus je suis avide, eh bien plus je reçois de la lumière divine, plus je deviens un canal par lequel la grande maman de tout à l'heure revient vers son bébé. Et je deviens moi-même participant au retour de Dieu vers le monde qu'il a créé. Voilà le sens véritable de la Teshuvah. J'ai commencé mes propos en disant que la Teshuvah, c'est toujours du haut vers le bas, du Créateur vers sa création. Vous en avez aujourd'hui et maintenant la preuve. La question vient bien après l'existence même de la réponse. Akadosh Baruch Hu, c'est la réponse à tout. Et nous sommes des milliards, des milliards, des milliards de questions. Et plus nous sommes questions, plus Akadosh Baruch Hu peut nous remplir de sa grande réponse, qu'il est lui-même dans son essence. Alors, bien entendu, on ne parle pas de lui en tant qu'essence, car encore une fois, nous sommes limités dans un cerveau binaire. Pourquoi vous avez minimum deux parties plus le cervelet, cerveau droit, cerveau gauche? Mais tout simplement parce que nous sommes dans un monde de deux, encore une fois. Et si nous sommes dans un monde de deux, je ne peux pas concevoir le un, si ce n'est qu'en passant obligatoirement par le deux. Et donc, si je ne suis pas deux, je ne peux pas étudier la Torah. Il faut être minimum deux pour étudier. Et les Chachamim vont dire tout ce que je viens de dire avec une phrase choc-choc. O chavruta, o mituta. Ou bien tu étudies la Torah avec une chavruta, avec un compagnon, ou bien tu meurs. La véritable mort, c'est étudier la Torah tout seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça veut dire que tu tournes autour de ton propre cerveau comme un serpent qui s'est mordré la queue, comme un chat qui se mordrait la queue. Parce que quand tu étudies seul, il n'y a personne pour te contredire, forcément. Tu n'as qu'une seule façon de penser. Tu n'arrives pas à penser pour deux personnes différentes. Tu es bloqué dans ton propre système de réflexion. Donc tu ne peux pas développer quelque chose qui dépasse ce degré. Et donc tu es cloisonné, emprisonné dans ta propre logique. Lorsque tu as quelqu'un en face de toi qui va pouvoir en réalité donner lui aussi sa version des choses, eh bien vous allez vous féconder. Chacun va donner quelque chose. Et d'entre les deux, nous allons censés être retrouver le quoi? Le Aleph initial. Donc le Aleph, la réponse à Kadosh Baruch Hu, dans son grand Aleph, Aloufo Shel Olam, le champion du monde, toujours la lettre Aleph, se retrouve en fait entre les deux étudiants. Ni chez l'un, ni chez l'autre. Dans la tension d'étude qu'il y a entre ces deux étudiants, vous allez trouver l'unicité de Dieu. Comme dans le couple. Où est-ce que Dieu se trouve dans un couple? Entre l'homme et la femme. Jamais, ni chez la femme, ni chez l'homme. Comme il est dit, « Ish ve isha shezachu shchina » Benehem, entre les deux, non pas chez eux. Benehem, dans l'espace, dans la tension d'amour qui existe au sein du couple. Donc dans l'espace. C'est comme ça que nous sommes dans un monde donc de pluriel, donc de la lettre Bet, donc de temps, d'espace. Et à travers ce monde, et à partir de ce monde du bête, nous sommes censés entendre, être à l'écoute du fameux Aleph, qui existe bien avant notre création, bien avant notre arrivée. Et si nous voulons comprendre maintenant l'histoire du shofar de Rosh Hashanah, eh bien c'est exactement pareil. Le shofar de Rosh Hashanah n'est pas un son qu'il faut entendre, comme malheureusement nous avons l'habitude de traduire en français. La mitzvah de Rosh Hashanah, c'est l'ishmoa, kol shofar, et non pas tzlil shofar. Nous sommes censés entendre la voix du shofar et non pas le son du shofar. Et oui, il y a une très grande différence. Entendre un sonneur de shofar, c'est entendre peut-être un champion de trompette qui sait bien sonner. Alors on va dire, ah, il a bien sonné. J'entends des gens, il a bien sonné, il a mal sonné. Mais en réalité, parce que vous êtes en train de vous focaliser sur le son. Alors que les Chachamim et la Torah nous dit de se focaliser sur la voix. Pas V-O-I-X seulement, mais V-O-I-E, sur la voix divine. Et encore une fois, pour voir si vous avez compris, quelle est la lettre de cette voix divine ? Le Aleph. Et dans le monde du Bet, eh bien, j'essaye de faire acheminer ce Aleph à travers ce conduit que représente le shofar. C'est bizarre. En France, le shofar, c'est le plus mauvais conducteur. Chez les Juifs, le shofar, c'est le meilleur conducteur qui soit. Quand vous voulez acheminer la lumière divine dans ce monde, vous devez utiliser le shofar. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que c'est la façon de parler du Créateur. Et d'où ce que je le sais, c'est écrit dans le verset « Moshe yedaber veha Elohim ya'anenu bekol » Moshe lui parle, car c'est un humain. L'humain parle. Mais Akadosh Baruch Hu lui répond par un kol, par la voix. Par quelle voix? Eh bien, la même voix que le shofar, l'ishmoa kol shofar. Nous sommes à la veille de Rosh Hashanah. Nous avons une mitzvah ce jour-là. C'est d'abord et avant tout d'être à l'écoute, d'être disponible à entendre, pas le son du shofar de celui qui va venir dans le quartier me sonner dans les bronches. Il faut être capable d'entendre la voix V-O-I-E qui traverse l'univers et qui porte avec elle, du haut vers le bas, le message d'Akadosh Baruch Hu vers sa création. Moins que cela, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là comme porte-parole, comme shofar d'ailleurs, ça s'est dit en hébreu. Je suis le shofar de Dieu. Je suis le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde en tant que peuple d'Israël. Nous sommes le shofar. Et encore une fois, comme dans la Teshuvah, je vous ai dit tout à l'heure, qui pour la première fois a fait Teshuvah ? Akadosh Baruch Hu lui-même, puisqu'il revient vers le monde qu'il a créé. Eh bien, la même chose. Qui pour la première fois a sonné du shofar ? Akadosh Baruch Hu. Et quand est-ce qu'il a sonné du shofar? Quand il a créé l'homme. Il est écrit là-bas, Vaipach be'apav nishmat chaim. Il a insufflé, il a soufflé dans les narines de l'homme comme s'il sonnait du shofar. Donc qui est le véritable shofar? L'homme. Et Akadosh Baruch Hu est le grand sonneur de shofar. Et si on n'a pas compris cela, on a l'impression que c'est le son du shofar d'en bas. Eh bien voilà, Kadosh Baruch Hu va nous mettre dans une épreuve qui n'est pas une épreuve, qui est une preuve que c'est à Kadosh Baruch Hu lui-même qui sonne du shofar, puisque Shabbat de Rosh Hashanah, on ne sonnera pas du shofar. Bizarre. Alors quoi, il n'y aura pas de chauffard le premier jour de Rosh Hashanah? Non, il n'y aura pas de chauffard humain, mais il y aura le chauffard divin, celui qui sonne sans arrêt et que tu n'entends pas assez. Et tu seras normalement censé l'entendre, ce chauffard, car il est tout le temps en train de sonner. Kol gadol velo yassaf, il est dit. C'est un son qui a commencé, qui n'a jamais terminé. Akadosh Baruch Hu n'arrête jamais de souffler de ce chauffard. Et contrairement au chauffard humain, où on s'affaiblit au fur et à mesure des sons parce que cela fatigue, chez Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Akadosh Baruch Hu sonne, vekol hashofar holech, vechazak meod. Il va et il devient de plus en plus puissant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu accélère le mouvement pour nous souffler dans les bronches. C'est que tout simplement, nous sommes face à des situations dans notre vie qui nous font voir de plus en plus clairement la présence de Dieu dans le monde. Et cette année, plus que jamais, nous rentrons dans un degré qui n'a jamais été atteint. L'année Tafshin Pe Aleph, qui est dans la même notion que Ashpot, qui veut dire les poubelles. L'année qu'on vient de terminer, qu'on va terminer, s'appelle la poubelle. Pas. Et c'est pourquoi il y a autant de difficultés dans cette année, autant de morts dans cette année, autant de malades dans cette année. Et l'année qui va venir, Be'ezrat Hashem, à partir de Rosh Hashanah, sera un axe qui va nous ramener d'une manière extraordinaire, exponentielle, vers une vie que vous n'avez jamais connue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire une année de qui va dépasser l'entendement de tout ce que vous avez l'habitude. Préparez-vous à entendre ce chauffard à Rosh Hashanah. Encore une fois, pas le son du chauffard, mais la voix divine qui est en train de nous réveiller, qui est en train de réveiller tout ce qui sommeille en nous, toutes nos capacités que nous n'avons jamais utilisées adéquates, toutes nos forces qu'il a implantées en nous, que nous n'avons jamais touchées, ou pas assez, toutes les applications qu'il a placé dans notre carte magnétique que nous n'avons jamais véritablement utilisée, et on va sortir vers une lumière extraordinaire qui va nous donner le véritable sens de la vie. Je résume avec quelques mots. La Teshuvah, c'est du haut vers le bas. Tout le cheminement du judaïsme, c'est de l'infini vers le fini. C'est lui qui vient vers nous. Et toute l'action de l'homme et des tzadikim, et du peuple d'Israël, qui est tout entier un peuple de tzadikim, vers Amer Kulam tzadikim, c'est d'aider Dieu à descendre et à se révéler sur terre. Non pas de quitter la terre pour aller vers Dieu, mais rester bien vivant sur terre et amener de plus en plus de divin. Merci pour votre écoute. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Je vous ai fait une hypnose. J'ai l'impression que vous êtes, d'après vos visages, un petit peu hypnotisé. Ce n'est qu'une hypnose ericksonienne qui est très légère. Ne vous inquiétez pas, je compte jusqu'à 10 et vous allez revenir sur Terre. Toda rabba lachem. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition encore quelques minutes.
Toda rabba Rav Ben Arosh, j'ai activé le micro, vous pouvez activer vos micros pour poser des questions au Rav.
Merci beaucoup de nous donner l'occasion de poser une question. Depuis le début, en fait, je me suis demandé, Rav Ben Arosh, si je suis votre raisonnement, comment alors on peut comprendre l'attirance que le peuple juif a vers Akadosh Baruch Hu, vers le 1, puisque ça n'est pas dans ce sens que ça doit aller. Comment alors expliquer l'attirance du peuple juif vers le haut, vers le 1?
Eh bien, tout simplement, l'attirance existe parce que nous venons de ce 1 Mais au lieu de repartir vers le 1, cette attirance, c'est d'attirer le 1 dans notre monde de pluralité. Tout simplement. Vous avez déjà en voiture, ou bien vous faites marche arrière et la voiture d'à côté pense qu'elle avance, ou bien il y a marche avant et vous avez l'impression de faire marche arrière. Ça vous est jamais arrivé d'être au feu et d'appuyer très très fort sur le frein parce que la voiture d'à côté fait une manœuvre et vous avez l'impression que c'est vous, mais c'est exactement pareil. Au lieu de monter vers Dieu, vous faites en sorte de ne pas le gêner dans ce sens. C'est tout.
Merci.
Merci à vous. C'est bon ?
Non, j'avais une question, je suis en train de la chercher.
La réponse existe déjà.
Oui, ça, c'est clair. Je crois bien que vous êtes peut-être le prophète Élie.
Je viens de recevoir des grades.
Mais je dis ça sérieusement. Puisque là, vous nous annoncez que, il faut être prêt, quoi.
Bezat Hashem, une année exceptionnelle est devant nous et il faut tout simplement se préparer et surtout ne pas abdiquer, ne pas tomber dans une dépression ni dans une détresse.
Okay. Je voulais vous demander, ça m'a beaucoup intéressée parce que j'y ai pensé déjà aussi par des rêves ou je ne sais pas, que la présence, que Dieu se tient dans l'entre-deux, dans le couple, comme on peut le voir entre les chérubins du bête.
Tout à fait, tout à fait.
Mais alors, quelle est la référence de votre... comment vous êtes arrivé à ça?
Bien, je suis arrivé à ça. Par rapport à tout ce que nous voyons dans le judaïsme, d'une manière cohérente, la Torah est cohérente. S'il s'agit d'un Dieu limité, moi, l'homme, je n'ai pas à servir un Dieu qui lui-même est limité. Or, si je vais vers un Dieu, c'est que je le focalise, c'est que je le limite, ne serait-ce que dans ma pensée.
Donc,
je laisse en réalité l'infini venir vers moi. Mais comme moi-même, je suis limité, je ne peux pas contenir l'infini. Donc l'infini, même s'il descend dans ce monde, il peut être que dans l'entre-deux, c'est-à-dire « Benehem ». « Venatati shrinati bekirbam benehem »
entre-deux. Elle est où cette référence? C'est dans quoi? C'est dans Shirashirim? C'est dans quoi?
Non, c'est dans le Mishkan, dans toutes les parachiotes qui parlent de l'élaboration du Mishkan. Et d'ailleurs, entre les deux chérubins, c'est de là que sortait Miben Shnei HaKeruvim. Vaidaber Elav Miben Shnei HaKeruvim. La parole de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on peut entendre d'un message divin, ne peut s'entendre que dans l'entre-deux de l'amour d'un masculin et d'un féminin.
Et est-ce que vous avez essayé, d'approfondir cette notion de l'entre-deux, c'est-à-dire les conditions entre les deux.
Hein? Je vous invite à d'autres cours dans lesquels, justement, nous développons cette notion de l'entre-deux. Où est-ce qu'elle se trouve? Comment est-ce que nous pouvons toucher cet entre-deux? Et par rapport à moi, où se trouve cet entre-deux et entre qui et qui? C'est-à-dire que même en face de moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me féconde. C'est d'ailleurs pour cela qu'un rav et un talmide, le mot talmide ne veut pas seulement dire un élève, comme en français, mais talmide, encore une fois, écoutez bien, ce sont les mêmes lettres que Meyaled, celui qui fait accoucher. Donc nous sommes encore une fois dans une notion de couple où l'élève fait accoucher les valeurs qui se trouvent chez le maître. Un bon élève fait accoucher son maître.
Oui, c'est vrai d'ailleurs, on le voit quand on est prof. Oui.
Voilà, donc le maître va sortir des choses, va exprimer des choses que s'il n'y avait pas l'élève, eh bien, il n'aurait pas...
J'ai eu la chance d'enseigner, et c'est exactement ça. Je me demandais d'où ça sortait.
Merci beaucoup. Et voilà.
Rav Ben Arouche, si vous dites, pardon de revenir vers une autre question, si vous dites donc que le 1 a donné naissance, bien sûr, Akadosh Baruch Hu a donné naissance donc à l'homme qui est le 2, et si on part du principe que la Neshama, c'est aussi une partie de ce 1, alors où situeriez-vous la Neshama qui est dans le corps de l'homme par rapport au 1 et au 2?
Bien, c'est exactement pareil. La Neshama, c'est la représentante de cette unité dans le corps humain qui est en réalité le représentant de cette pluralité, de l'ensemble des membres.
Donc elle est liée au 1.
Elle est liée au 1, elle est dans le 1 et nous bénissons Akadosh Baruch Hu à chaque fois que nous sortons des toilettes de ce miracle. Comment est-ce que cette Neshama qui est une peut rester aussi longtemps dans ce 2 qui, généralement, la rejette, n'arrive pas à concevoir ce 1. Et c'est ce qu'on appelle « mafli la asot ». C'est incroyable.
Merci.
Rav, je peux juste vous redemander comment vous avez dit « kol ha-shofar holech v'chazak »
et « yam paramo » ?« Kol ha-shofar holech v'chazek me'od »« Moshe v'edaber v'ha-elohim y'anenu bekol » Parashat Yitro.
Yitro.
S'il vous plaît. C'est moi aussi, j'avais une question. Après.
Allez-y.
Moi, ma question, en fait, c'était si justement on est le 1, on est le tout, en fait, si on fait partie justement de l'infini, puisque notre Neshama, elle est divine, donc on est quelque part divin.
Vous avez raison, d'une manière globale. Il n'y a rien d'autre que lui.
Voilà, en fait, comme il n'y a rien d'autre que lui et que nous, finalement, on n'est pas séparés de lui, on est finalement de la divinité.
Tout à fait. Et c'est pour ça que ne pas vivre selon ce degré divin qui est en nous, c'est la plus grande des fautes.
C'est ça, mais par exemple, sur des actions concrètes, comment faire vivre cette divinité, en fait,
tout simplement, lorsque j'arrive au travail, savoir que même si, par exemple, je suis artiste peintre, même en faisant une toile, en peignant une toile ou une œuvre d'art, eh bien, je suis en train de faire descendre des valeurs de divin, de beauté, d'intégrité, de sincérité, de bonté, d'amour dans ce monde. C'est tout. Et chacun dans
son... Mais donc, alors, est-ce que ce ne serait que des valeurs ou est-ce qu'il n'y a quand même pas le respect de l'halakha et...
Il y a un respect, parce que la halakha, en réalité, c'est la démarche. Halakha vient du mot marcher. Donc, comment est-ce que je dois marcher dans ce monde? Quelle est ma démarche dans ce monde? Eh bien, selon ces principes divins. Donc, même si je ne comprends pas, la halakha me dit certaines choses, eh bien, si véritablement j'approfondis la halakha, je peux arriver à la compréhension comment je dévoile dans ce monde de deux, de halakha, cette unité divine dans chaque action de ma vie. C'est ça les vrais mitzvot. D'ailleurs, mitzvah ne veut pas dire commandement, mitzvah veut dire équipage. C'est bête.
Voilà, comme en fait, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'on est le 1, qu'on n'est même pas, en fait, qu'on n'est pas dissocié.
Dissocié, il n'y a que lui.
Justement, s'associer.
En od mi levado. Il n'y a rien d'autre que lui.
D'accord. Donc, en fait, après, ce serait, une fois qu'on a compris qu'on est le 1, qu'on est vraiment
Même dans le 2, nous sommes en réalité une expansion, une expression de ce 1. Tout à fait.
D'accord. Ok, très bien. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie pour ces questions intelligentes.
Il y a peut-être d'autres qui veulent parler, sinon je voudrais poser quelque chose.
Je veux poser une question.
Oui, Daniel, on est avec vous.
Non, c'est Annie Veller.
C'est Annie. Ok. J'entends pas, votre micro ne marche pas.
Vous m'entendez là? Vous m'entendez?
Oui.
D'accord. Oui, je voulais revenir sur votre image de HPA, des lettres de l'année dernière qui étaient
Tafshin P.
Et cette année, bon, c'est Tafshin P Aleph.
Ken, mais HPA. il arrive
la différence.
Justement, il y a la notion de Aleph en plus.
D'accord.
Le Aleph va se dévoiler dans cette poubelle dans laquelle nous sommes tous tombés. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup. Merci.
Je vous remercie toutes et tous.
Il y a Daniel Benaïm qui veut poser une question depuis longtemps là.
Daniel Benaïm, je vous écoute. On n'entend pas. On n'entend pas. Le micro ne marche pas. Non, 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 on n'entend rien du tout.
Et moi, est-ce que pendant ce temps, je peux poser une petite question?
Allô? Alors, j'ai le micro. Le micro ne marche pas chez moi.
Ah, si, si, il marche puisqu'on vous entend maintenant.
Ce sera pour une première fois. On t'entend maintenant. Ça va, Tova.
On vous entend, on vous entend maintenant.
J'arrive pas, mon micro ne marche pas.
Mais il marche puisqu'on vous entend.
Non, mon micro ne marche pas. Alors, tant pis.
Ok.
Rav.
Allez, une dernière question. Parce que j'ai un autre cours juste après vous. Ah, allez-y.
Vous avez dit que pour l'étude de la Torah, c'est dangereux de le faire tout seul.
Tout à fait.
Or, pour les femmes, on n'a pas de yeshiva. On ne peut pas être en binôme.
Vous pouvez être en binôme. Aujourd'hui, nous avons créé ce qu'on appelle yeshiva Zoom. Et vous n'êtes pas inscrite.
Non.
Ah, ben
je
ne
sais pas. Parce que je ne sais pas.
J'ai créé une yeshiva Zoom. Et si vous rentrez dans mon site internet, ravyoel.com, eh bien, vous allez voir, il y reste, je pense, à peu près une dizaine de places. Après, c'est fini, c'est terminé, parce qu'il y a trop de monde. Donc, vous avez encore 10 places. Vous avez bien fait de poser la question.
Comment vous écrivez Yoel?
Yoel, oui. Rav Yoel, tout attaché. Ravyoel, ravyoel.com.
.com, merci beaucoup.
Voilà, merci à vous.
Parce que pour l'instant, ben, j'écris, puis quand je me contredis 6 mois plus tard, ça ne me dérange pas.
Toda rabba et Bezrat Hashem Shana Tova à vous.
Toda.
Toda rabba.